Merci de bien vouloir prendre place. On va reprendre les débats. Donc effectivement, comme je le craignais, étant le métronome de cette matinée, on a un peu de retard parce qu'on va reprendre les débats à peu près à l'heure où on était censé terminer la table ronde. On va quand même se donner une petite demi-heure avec M. Silicani pour faire le point. J'ai envie de dire maintenant parole à la défense, parce que dans la première table ronde, on peut dire que la régulation au sens large, plus que l'ARCEP en particulier, mais la régulation au sens large a été peut-être pas forcément, on va pas dire critiquée, mais en tout cas peut-être mise en cause ou interpellée. Je crois que ça, il serait bon d'avoir votre point de vue et d'apporter certains éléments de réponse après effectivement un début d'année en fanfare dans le secteur des télécoms, avec l'irruption d'un nouvel acteur qui a bouleversé le marché, fragilisé sans doute une partie des acteurs. Et la question finalement que se pose implicitement beaucoup d'observateurs, c'est, vous aviez dit lors de votre prise de fonction que le régulateur avait pour but de favoriser la concurrence optimale, mais finalement, est-ce que la France n'a pas basculé dans une concurrence qui serait plutôt maximale, quoi. En déroulant le tapis rouge en faveur de Free, n'avez-vous pas dévié de votre objectif? Et la conséquence finalement de tout ça, c'est est-ce que les télécoms vont pas finalement devenir un secteur qui, au lieu d'être créateur de richesses et créateur d'emplois, va devenir un secteur qui détruit des emplois? Monsieur Silicani.
Alors effectivement, cette phrase, j'avais prononcée dans une interview aux Échos en juin 2009, et je ne changerai pas un mot, c'est-à-dire l'équilibre que nous devons tenir entre l'objectif de concurrence, de créer un marché concurrentiel, et les autres objectifs que la loi nous impose, que sont par exemple l'aménagement du territoire ou le fait de donner accès au plus grand nombre à des services de qualité à un prix abordable. Tout ceci, c'est le législateur qui fixe ses objectifs, à la fois d'ailleurs aux ministres et aux régulateurs. Alors je crois que nous avons tenu cette ligne depuis, en tout cas que je préside l'ARCEP. Alors d'abord l'objectif bien sûr de concurrence. Revenons 20 secondes en arrière. Il ne faut pas quand même mettre la concurrence à la corbeille, même si ça peut être facile ou à la mode. 15 ans d'ouverture du marché à la concurrence, avec une régulation qui me semble a été bien faite, c'est un doublement de la production du secteur des télécoms. Je n'ai pas trouvé, malgré mes recherches, d'autres secteurs de l'économie où la production en volume est doublée en 15 ans et où les prix ont baissé de 15%. Je crois que beaucoup de Français et beaucoup de responsables publics aimeraient que le secteur de l'énergie, par exemple, les prix n'augmentent pas l'alimentation, et c'est donc une bonne nouvelle quand même pour les Français et pour leurs élus qu'il y a un secteur dans l'économie où les prix baissent. Alors cette concurrence, donc, elle a eu de grands effets et elle a permis finalement, et je pense qu'ils sont contents, à des concurrents de France Télécom d'apparaître. SFR, Bouygues et Free, par exemple, doivent être contents. J'imagine qu'il y ait eu quand même une concurrence qui leur a permis d'exister, tout simplement. Alors pour autant, la concurrence n'est pas le seul objectif, je l'ai dit, et je prendrai un exemple, l'aménagement numérique du territoire. L'ARCEP a bataillé fortement en 2010 pour que cet objectif soit retenu pour attribuer les fréquences 4G pour le très haut débit mobile. Les opérateurs avaient des positions variables sur le sujet, et le ministre de l'Industrie de l'époque n'était pas très favorable à ce que cet objectif soit pris en compte conformément à la loi. Il a fallu que deux autorités de la République finalement arbitrent en quelque sorte. Le gouvernement avait saisi le Conseil d'État qui a donné raison à l'ARCEP. Et par ailleurs, la commission du divan numérique présidée par des parlementaires a aussi validé les propositions de l'ARCEP. Donc finalement, ce que nous avions mis en consultation publique au printemps à l'été 2010 a fini par être approuvé en mai 2011, donc une année, non pas de perdu, mais enfin il a fallu une année pour que cet objectif qui n'est pas la concurrence soit retenu. C'est un exemple qui montre bien que nous ne sommes pas obsédés par la concurrence. Sur l'emploi, c'est la question que vous posiez, elle est bien sûr très importante. J'ai lu ce matin que le ministre de l'Industrie s'en préoccupait, ce qui est tout à fait compréhensible. Ça dépend comment on voit l'emploi. Si on regarde uniquement le secteur des télécoms, Il a effectivement vu ses effectifs baisser, notamment au début de l'ouverture du marché, 40 000 emplois. On est passé de 170 000 à 130 000 emplois pendant la première moitié des 15 années de l'ouverture du marché à la concurrence. Depuis 6 à 7 ans, on est sur un plancher, sur un palier autour de 125 000 à 130 000 emplois. Donc on peut estimer que l'animation concurrentielle qu'on a obtenue n'a plus provoqué de destruction d'emplois. Mais sur l'emploi, tout peut être démontré. Moi, j'ai lu au cours de ces derniers, je terminerai par là pour cette première question, j'ai lu des articles d'éminents universitaires, d'économistes universitaires, que je ne suis pas, les uns démontrant que la concurrence créait beaucoup d'emplois et les autres démontrant que la concurrence en supprimait. Alors, comme je suis plutôt un praticien de l'économie qu'un théoricien, je regarde la réalité. Je vois qu'aux États-Unis, qui est considéré par certains comme l'Eldorado, qu'il faut absolument copier, où il y a très peu de concurrence, effectivement, et où le régulateur a très peu de pouvoir, la FCC, j'ai vu mon homologue à deux reprises, et il disait, ah, si je pouvais faire ce que vous faites, ça serait vraiment bien. Donc, peu de concurrence, 20% d'effectifs supprimés dans les télécoms en 10 ans, aux États-Unis. Alors, si c'est ça le modèle, je doute que ce soit le modèle pour ceux qui le présentent les États-Unis comme un modèle. Voilà.
Mais est-ce que votre regard n'est pas un regard finalement un peu rétroviseur ? C'est-à-dire tout ce que vous avez dit était vrai jusqu'à l'arrivée de Free, mais l'arrivée de Free change peut-être la donne, c'est-à-dire à la fois sur l'emploi et sur la capacité d'investir. Vous parliez d'aménagement du territoire. Est-ce qu'on n'a pas finalement passé un point de bascule ? C'est-à-dire la concurrence, certes, jusqu'à un certain niveau, ensuite on bascule dans trop de concurrence.
Alors, je dirais que l'arrivée de Free, c'est la fin du cycle. C'est la fin de la création du marché concurrentiel. C'est pas le basculement. C'est la fin du cycle, puisque tous les grands pays d'Europe avaient et ont quatre acteurs mixtes, fixes, mobiles. En tout cas, ont quatre acteurs mobiles, en tout cas. Nous étions le seul à en avoir trois. Le Royaume-Uni en avait cinq, il est revenu à quatre. Et maintenant, tous les grands pays d'Europe ont quatre acteurs mobiles. Donc, je dirais que c'est le format ou la norme des pays qui ont plus de 50 millions d'habitants en Europe. Par ailleurs, ce qu'on constatait, c'était pas de l'idéologie, c'était un constat que le prix des services mobiles en France était supérieur, pour un panier moyen de consommation, à la moyenne européenne. Donc, l'arrivée d'un quatrième opérateur était l'achèvement de la création d'un marché concurrentiel raisonnable sur le fixe et sur le mobile, tous les opérateurs devant aujourd'hui être fixes et mobiles. Je rappelle que cette décision de principe, non pas de choisir Free, mais d'attribuer une quatrième licence de téléphonie a été prise par le précédent gouvernement et par le Premier ministre, François Fillon, qui a assumé cette décision et jusqu'au bout, ce qui, d'ailleurs, il faut le souligner, malgré les difficultés que cela a pu amener. C'est une décision donc du Premier ministre de janvier 2009. Le collège de l'ARCEP a défini les règles d'attribution de cette licence en mars 2009. Et j'ai pris une fonction en mai 2009.
Sur l'investissement, sur le fait que peut-être on a basculé dans un point où il y avait trop de concurrence, est-ce que aujourd'hui vous pensez que les opérateurs vont encore avoir la capacité d'investir et de remplir les missions aussi de services publics, de couverture du territoire que vous évoquiez tout à l'heure ?
Alors on est clairement entré aujourd'hui, ça répond à votre question, dans une nouvelle ère de l'écosystème des télécoms et donc de la régulation des télécoms. L'objectif fixé par la loi de 96 a été atteint, un marché concurrentiel a été créé pour le fixe et le mobile qui était moins prévisible à l'époque mais qui est devenu extrêmement important. On est entré dans une nouvelle ère dans ce secteur et donc dans la régulation de ce secteur qui est liée au nouveau réseau fixe, le déploiement de la fibre optique et bien sûr les nouveaux réseaux à très haut débit mobile, l'internet à très haut débit mobile avec les fréquences 4G. Je constate, et nous en félicitons bien sûr à l'ARCEP, que les opérateurs qui ont obtenu, les trois opérateurs mobiles historiques qui ont obtenu des bandes hautes et des bandes basses sur la 4G, envisagent de l'utiliser pour contourner, si je puis dire, et prendre par le haut, sortir par le haut, de la concurrence accrue sur la 2G, sur la 3G avec l'arrivée de Free. Je crois que c'est une très bonne stratégie. C'est une stratégie de sortir par le haut et non pas de sortir par le bas. Et ils ont tous indiqué qu'ils envisageaient d'accélérer leur investissement dans la 4G, d'expérimenter la 4G très vite dans quelques villes sur le territoire, et pour certains, d'essayer d'ouvrir leurs services dès le début de l'année prochaine, donc de façon extrêmement rapide. Or, le très haut débit mobile, donc peut-être dès 2013 pour certains territoires, et la fibre optique pour d'autres territoires, c'est aussi des capacités d'augmenter des revenus des opérateurs. Donc on ne peut pas raisonner en l'économie en général et dans ce secteur qui est traversé par la colonne vertébrale et l'objectif et l'aiguillon de l'innovation. Tous les jours, c'est nouveau. Moi, je dis souvent à mes interlocuteurs, je ne connais rien dans ce que je traite aujourd'hui qui soit ceux que j'ai trouvés il y a 3 ans quand je suis arrivé à l'ARCEP. C'est un secteur qui bouge à une vitesse absolument extraordinaire. C'est ce qui en fait d'ailleurs tout l'intérêt. Donc on ne peut pas raisonner comme toute chose égale par ailleurs dans ce secteur. Et il faut que les opérateurs rebondissent sur les nouveaux réseaux et les nouveaux services et les nouveaux revenus qu'ils tireront de ces nouveaux réseaux. Il leur appartient de définir à ces opérateurs, c'est pas du tout ni au régulateur, ni au gouvernement, ni au Parlement de le faire, de définir le modèle tarifaire de ces nouveaux services à très haut débit qui peuvent parfaitement différer du modèle tarifaire des services du bas débit ou du haut débit d'aujourd'hui.
Pour poursuivre sur l'investissement, à une période où effectivement les marges des opérateurs sont de plus en plus serrées dans le mobile, dans le fixe également, est-ce que la solution finalement pour répondre à un déploiement par exemple de la 4G ou un déploiement rapide de la fibre, c'est pas d'accélérer aussi le processus de mutualisation? Est-ce que le régulateur devrait pas finalement inciter dans le mobile comme dans le fixe à mutualiser beaucoup plus les investissements?
Alors, les investissements, c'est bien sûr le cœur du réseau des télécoms. J'ai dit, c'est une industrie qui produit des services, les télécoms. Donc, une industrie, ça implique des investissements. C'est un secteur très capitalistique. Il faut beaucoup investir. Le besoin d'investissement, c'est quoi? Il y a un consensus entre les opérateurs, enfin, entre l'addition des informations que vous donnent les opérateurs, les travaux que la Fédération française des télécoms a fait et les analyses que l'ARCEP a fait, ce qui prouve d'ailleurs en réponse à ce qui a été dit à la fin de la présente table ronde, que à la fois les opérateurs et les régulateurs ne se contentent pas du présent, mais essayent de réfléchir, à faire un peu de prospective et de prévision, ce qui est bien sûr tout à fait essentiel. On est d'accord pour estimer environ 6 milliards par an le besoin d'investissement dans le secteur des télécoms pour les 10 prochaines années. Sur les réseaux fixes, tout additionné, réseaux fixes, réseaux mobiles et réseaux classiques et nouveaux réseaux. C'est une somme qui est significative, mais pour un secteur qui fait un peu plus de 40 milliards par an de chiffre d'affaires, ça n'est pas non plus un mur d'investissement comme ça parfois a été dit. Alors, c'est 6 milliards de besoins. Les investissements ont atteint l'année dernière 7 milliards 9, un record historique, ce qui signifie qu'ils pourraient baisser d'un milliard et demi.
Achat de licence comprise.
Alors justement, donc, ce qui a conduit en 2011, record historique, et sans doute en 2012, on verra, à monter à ces niveaux extrêmement élevés, c'est qu'il s'est ajouté aux investissements matériels, physiques des réseaux, des investissements immatériels, qui sont les achats de fréquences pour à peu près 5 milliards d'euros, divisés sur 3 années, disons en gros 1,7 milliard par an. Donc si vous enlevez ces achats de licences qui ne se reproduiront pas d'ici à la fin de la décennie, il n'y aura pas de nouveaux achats de licences significatifs, en tout cas d'ici la fin de la décennie. On peut imaginer peut-être un deuxième dividende numérique vraiment à la fin de la décennie, au début de la décennie suivante. Donc il n'y aura plus d'achat de licence, donc on pourra se limiter aux investissements physiques. Donc si on regarde ce besoin de 6 milliards d'investissements, on voit qu'il est à 1 milliard et demi, en gros, en dessous de ce qui a été atteint pour les 3 dernières années. Donc l'investissement global des opérateurs peut se réduire sans entamer leur capacité d'investissement physique d'un milliard et demi par an. Or, 1,5 milliard par an, c'est à peu près l'évaluation moyenne que font, je me garderai bien, moi-même de faire, ou l'ARCEP de faire des prévisions là-dessus, mais ce que les analystes et les économistes spécialisés dans ce secteur disent, c'est que la baisse des marges qui pourraient se déduire de l'animation concurrentielle provoquée par l'arrivée de Free sur le mobile pourraient être à peu près de cet ordre de grandeur. Donc ça signifie que le simple retour de l'investissement à son niveau d'étiage des dernières années hors achat de fréquences qui correspond aux besoins pour l'avenir que à la fois les opérateurs et les régulateurs ont estimé permet d'absorber la baisse des marges éventuelles qui résulte de l'arrivée de Free sans avoir besoin, donc, éventuellement, si tous ces chiffres sont exacts, je laisse le marché et les analystes du marché le dire mieux que moi, ça veut dire qu'il ne serait pas besoin de réduire d'autres coûts, par exemple les coûts liés à l'emploi.
Dans ma question, il y avait aussi un volet co-investissement ou mutualisation d'investissement. Alors, est-ce que...
J'y réponds, mais il était important d'abord de savoir de combien on parlait. Donc on parle de 6 milliards par an. Alors comment peut-on réduire, ou en tout cas éviter une augmentation de ces coûts, surtout si 6 milliards par an en moyenne, ça peut nécessiter au début peut-être plus si on veut rattraper un retard. Comment réduire ces coûts? Alors le choix, vous me posez la question de savoir si le régulateur ne pourrait pas inciter à la mutualisation. Nous avons fait beaucoup mieux que pouvoir inciter. Nous avons incité à la mutualisation puisque, que ce soit, et on nous l'a reproché d'ailleurs, ça, de toute façon, quoi qu'on fasse, nous avons des reproches de ceux qui souhaitent qu'on fasse l'inverse de ce qu'on fait, ce qui est normal. Comme je dis souvent, un régulateur dont on dit du bien, il faut vraiment s'en méfier. Il ne fait pas vraiment son travail. Donc je reviens sur la mutualisation. Nous avons prévu pour les réseaux fixes une très forte incitation à la mutualisation, puisque pour 95% du territoire, les zones moins denses, c'est-à-dire tout le territoire sauf les 20 plus grandes agglomérations, le cadre de régulation qu'on a mis en place est un cadre qui incite énormément à la mutualisation, à la création de, en tout cas sur les réseaux, sur la partie passive des infrastructures, et qui devrait permettre de mutualiser 90% de l'investissement. Donc je ne sais pas si on peut aller vraiment au-delà de la mutualisation de 90% de l'investissement, et qui donc réduit évidemment le coût de ce réseau de fibre optique, qu'on a estimé effectivement à un peu plus de 20 milliards d'euros si on fait tout le territoire à 100%, sachant que 2 milliards ont déjà été investis par les opérateurs, et qu'une partie de ce financement pourra être apporté ou par les collectivités locales ou par des appuis apportés par l'État. Alors sur le fixe, c'est donc un cadre très incitatif à la mutualisation. Sur le mobile, nous sommes le seul régulateur en Europe à avoir prévu, dans le cadre des attributions de la 4G mobile, du très haut débit mobile, un mécanisme d'incitation à la mutualisation, puisque dans la zone prioritaire qui correspond aux deux tiers de la surface du territoire, les opérateurs sont plus qu'incités à mutualiser, puisque tout opérateur qui fait à l'autre une demande raisonnable de mutualisation doit l'obtenir. Donc nous sommes le juge de paix s'il y a un désaccord là-dessus. Donc ça veut dire que toute demande raisonnable faite par un opérateur de la bande 800 à un autre doit être acceptée par un autre opérateur. Mutualisation des réseaux et mutualisation des fréquences. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce degré de mutualisation. Donc tout le cadre de la régulation incite à la mutualisation. Et en cela, bien sûr, les tenants, alors pour le coup idéologiques, je ne dis pas l'ARCEP, la preuve en est démontrée, de la concurrence par les infrastructures se trouvent un peu déçus.
Changeons un tout petit peu de débat. On a un nouveau gouvernement qui est au pouvoir depuis quelques temps. Je le disais en préambule, il y aura sans doute des chantiers législatifs. Parmi les pistes qu'on évoque déjà et qui pourraient revenir donc rapidement sur la table concernant la régulation, il y a ce serpent de mer de rapprocher un jour le CSA et l'ARCEP. Qu'est-ce que vous inspire ce débat? Est-ce que vous seriez prêt à avaler le CSA? Est-ce qu'il faut répartir les rôles autrement? Comment est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait conseiller à nos nouveaux ministres sur ce sujet?
Ça doit être la 17e fois qu'on pose cette question. Depuis que j'ai pris mes fonctions, et peut-être qu'on la reposera encore 17 fois, et puis peut-être à mes successeurs.
Mais là, ça va peut-être arriver.
Non, mais je vais répondre peut-être à mes successeurs encore. Moi, je conseillerais, non pas de savoir s'il faut fusionner ou pas l'ARCEP et le CSA, mais de se poser une question qui est en amont de cette question, et dont la réponse à la question que vous posez se déduit. On pourra savoir s'il faut ou pas rapprocher l'ARCEP et le CSA, ou d'ailleurs d'autres structures, quand le Parlement, ça relève entièrement du Parlement, bien sûr, et c'est normal, aura décidé quelle est l'évolution du contenu de la régulation des contenus audiovisuels d'une part et de l'Internet d'autre part. Puisque le CSA est chargé de la régulation des contenus audiovisuels et l'ARCEP, comme les autres régulateurs de télécom, devient de fait, et le cadre communautaire nouveau l'a confirmé, devient le régulateur technico-économique de l'Internet. Or, ces deux régulations sont totalement aux antipodes actuellement. La régulation des contenus audiovisuels est une régulation très forte et entièrement encadrée par des textes nationaux, et la régulation de l'Internet est une régulation légère et entièrement encadrée par un cadre communautaire. Donc, si le Parlement peut et veut rapprocher ces deux régulations, en réduisant la régulation des contenus audiovisuels et en accentuant la régulation de l'Internet, si tel est son choix, alors la conséquence doit être évidemment de fusionner les deux instances. Si en revanche le Parlement ne fait pas ce choix et maintient une très forte dissymétrie en maintenant une forte intervention publique dans les contenus audiovisuels et en laissant une certaine latitude aux acteurs pour ce qui concerne l'Internet, alors on ne verrait pas de raison autre que faire du Lego de fusionner l'ARCEP et le CSA. Donc il y a une question en amont qui est politique, qui est un choix politique que doit faire le Parlement sur le contenu de la régulation de l'audiovisuel et de l'Internet. Et en fonction de ce choix politique, la conséquence est ou n'est pas de fusionner.
Alors, pour vous paraphraser, sûr d'avoir bien compris, ce que vous dites, c'est que
c'est assez simple.
Il faut une régulation, il faudrait un acteur qui régule les contenus, qu'il soit audiovisuel ou sur Internet, et ça serait plutôt la mission.
Non, ça ne serait pas sur les contenus. Non, nous ne régulons pas les contenus de l'Internet. Nous faisons, au moment où je vous parle, conformément au cadre communautaire transposé dans la loi française depuis maintenant plusieurs mois, la régulation technico-économique de l'Internet. Nous ne régulons en rien les contenus de l'Internet. Nous vérifions que la qualité du service d'accès à l'Internet est conforme aux standards et au minimum que la loi impose désormais. Nous vérifions que les conditions de l'interconnexion technico-économique, de l'interconnexion entre FAI, opérateurs du web, est correcte. Nous vérifions que les pratiques de gestion de trafic sont acceptables ou ne le sont pas. C'est la régulation technico-économique de l'Internet. Et je dis, elle est légère parce que le cadre communautaire a visé à ce que le régulateur surveille le bon fonctionnement technico-économique de l'Internet et n'agisse que s'il identifie des dysfonctionnements. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une régulation très peu intrusive. Or, en revanche, la régulation des contenus, cette fois-ci, et de l'audiovisuel strictement, elle, c'est la loi de 86, est une régulation extrêmement puissante, forte. C'est un choix politique qui a été fait constamment par tous les gouvernements, toutes les majorités, depuis 25 ans, d'avoir une très forte régulation des contenus audiovisuels. Donc on a bien deux régulations très différentes, très fortes pour l'audiovisuel, très légères pour l'Internet, nationales pour l'audiovisuel, communautaires pour l'Internet. Et dans les pays où les autorités sont les mêmes, ce sont des pays où il n'y a pas de régulation des contenus audiovisuels. On nous cite toujours les États-Unis et le Royaume-Uni. Ben, dans les États-Unis, la FCC, qui est le régulateur de l'Internet et des télécoms, est par ailleurs de l'audiovisuel, mais il y a 5 personnes qui s'occupent de la régulation de l'audiovisuel à la FCC parce qu'il n'y a rien à faire. La Constitution américaine, un amendement de la Constitution américaine, interdit toute intervention de l'État, comme dans la presse, c'est la même chose en France pour la presse, dans les contenus audiovisuels. La culture française est différente. On a estimé que la puissance publique, au travers du régulateur, le CSA, pouvait intervenir dans le contenu, dans les contenus audiovisuels. C'est pas le cas aux États-Unis. Donc on comprend très bien que dans des pays où l'action de l'État en matière audiovisuelle se limite à attribuer des fréquences, et c'est tout, eh bien c'est le même métier que ce que fait le régulateur des télécoms, et donc on a un seul régulateur.
D'accord.
Dans un pays où il y a cette différence très forte que je rappelais tout à l'heure, la question préalable est de savoir si on veut rapprocher les niveaux de régulation entre l'audiovisuel et l'Internet. Et si oui, alors il faut fusionner, rapprocher les régulations, donc rapprocher les régulateurs. Si elles demeurent comme aujourd'hui très différentes, je ne vois pas la raison qu'il y aurait à rapprocher les régulateurs.
Alors prenons un cas concret, c'est pas pour citer un nom en particulier, mais prenons un acteur du type de Google. Aujourd'hui, c'est un acteur qu'il faut réguler ou qui a un intervenant dans la régulation, du débat réglementaire, de la régulation sur l'Internet, l'accès au réseau, la neutralité du net, des choses comme ça. Et ça peut être aussi un objet qui doit intervenir dans la régulation concernant les contenus, le financement de l'audiovisuel. Qui doit réguler Google? Est-ce que Google doit être régulé à la fois par un CSA et par un ARCEP. Est-ce que c'est d'ailleurs possible de réguler un acteur qui est finalement plus mondialisé que finalement véritablement un acteur hexagonal ou même européen?
Il y a deux questions dans votre question. La première, sur les aspects technico-économiques, ce que l'ARCEP ou un autre régulateur européen pourrait faire, c'est de, si nous sommes saisis, puisque la loi de transposition nous donne le pouvoir désormais de régler des différends, non seulement entre les fournisseurs d'accès à Internet, comme c'était déjà le cas, mais aussi entre FAI et opérateurs du web, c'est une nouvelle compétence que nous avons. Si nous sommes saisis ou par un Google, un opérateur de contenu du web, et ou par un FAI, d'une difficulté à définir, dans le cadre d'une convention d'interconnexion, des clauses techniques ou tarifaires, c'est toujours uniquement les aspects techniques ou économiques que nous traitons, eh bien, comme on le fait régulièrement pour des différends entre FAI, nous regarderons en quoi consistent ces différends et nous apprécierons en équité qui a raison ou qui a tort, et on rendra notre décision. Donc ça, c'est l'aspect technico-économique.
Et là, pour l'instant, vous n'avez jamais été saisi d'un différend.
Parce que la compétence a été donnée par une ordonnance de niveau législatif, donc à l'automne 2011, et le décret d'application est sorti il y a quelques semaines. Et par ailleurs, pour l'instant, les opérateurs n'ont peut-être pas encore pris en compte cette nouvelle compétence. Mais il est possible qu'on ait une telle demande, disons, à l'automne. Alors après, la deuxième question que vous posez est celle de la régulation des contenus audiovisuels qui viennent de prestataires, de producteurs de contenus et de services de l'Internet. Ça, c'est une autre question qui se pose pour l'avenir de la régulation de l'audiovisuel. C'est que aujourd'hui, une part croissante des contenus audiovisuels et des programmes audiovisuels ne passe plus par voie hertzienne, mais par des voies filaires. Le câble depuis longtemps, la DSL avec les box, notamment en France, puisque on a inventé le concept de box, et pas seulement le concept, la réalité, la fibre optique demain, et donc on peut penser que sur une longue période, et ce mouvement est très très nettement engagé, on a une étude de médiamétrie trimestrielle qui nous donne ces éléments de façon extrêmement précise, qu'il y a une évolution qui va conduire à ce que la part hertzienne terrestre de l'acheminement des contenus audiovisuels baisse et va baisser, continuer à baisser, et la voie de distribution de fixe ou filaire, en tout cas, s'accroît et va continuer à s'accroître. Et donc se posera de toute façon, quel que soit d'ailleurs l'éditeur de contenu, que ce soit un Google ou une chaîne de télévision française classique, de savoir comment réguler les contenus audiovisuels sur des réseaux qui seront de moins en moins hertziens, de plus en plus filaires. Mais ça, c'est un problème qui se pose indépendamment de la question précédente que vous m'aviez posée.
Très bien. Je ne voudrais pas me faire interrompre par quelqu'un qui me dise qu'on va dépasser le temps qui nous était imparti. Donc je vais vous demander si quelqu'un dans la salle a encore une question, qui pourrait être la dernière question qu'on poserait à M. Silicani, sinon je la poserai moi-même. N'ayez pas peur. Une question ? Peut-être dernière question, alors je me permets de vous poser. Je reviens en arrière concernant Free. Oui. On a un peu reproché implicitement ou même explicitement à l'ARCEP d'avoir finalement laissé Free se lancer avec un cadre réglementaire le cadre d'une licence qui reflétait mal les nouvelles exigences. En quelque sorte, Free serait une sorte de super MVNO, se serait lancé en étant... en ayant respecté à la lettre sa licence qui était de couvrir X% du territoire à la date de son lancement, mais finalement avec un réseau qui n'était pas capable d'assumer une part importante du trafic. Et l'essentiel du trafic passe sur le réseau d'Orange via une convention de roaming. Est-ce que si on devait aujourd'hui lancer un cinquième opérateur, je ne parle pas de malheur, mais finalement...
L'envisageons pas.
Est-ce que rétrospectivement, on ne se dit pas finalement la loi aurait dû être un petit peu plus précise, c'est-à-dire couverture du territoire et aussi pourcentage de trafic passant par le réseau en propre d'un opérateur?
Le législateur peut faire presque tout ce qu'il veut, dès lors qu'il respecte le cadre communautaire. Le cadre d'attribution de cette quatrième licence était déjà inscrit en quelque sorte dans les licences 3G déjà attribuées, puisqu'elles prévoyaient, dans les licences 3G attribuées à France Télécom, à SFR et enfin à Bouygues Télécom, la réutilisation d'une partie de leur fréquence pour permettre l'attribution d'une quatrième licence à un opérateur, si il apparaissait possible de l'avoir. Je rappelle que dès le milieu des années 2000, après les premières attributions à Orange, puis enfin je ne sais pas si ça s'appelait Orange à l'époque, à France Télécom et à SFR, un nouvel appel a été fait de deux nouvelles fréquences, donc c'était bien prévu d'en attribuer quatre, et qu'il y a eu la fréquence attribuée à Bouygues Télécom, et donc il restait depuis le début l'idée d'attribuer une quatrième fréquence, avec dans les licences des trois autres, la restitution de fréquences pour permettre cette attribution d'une quatrième licence. Donc le cadre était un peu préfiguré par les licences 3G déjà attribuées. Les conditions d'attribution de la quatrième licence étaient strictement identiques des conditions d'attribution des trois licences 3G précédentes. Alors après, il restait à savoir le principe de l'attribution. C'est le gouvernement précédent qui a décidé cette quatrième attribution. Et puis après, la mise en œuvre de cette attribution. Donc les règles d'attribution, c'était les mêmes que celles des fréquences antérieures, 3G, et il restait le prix. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur le prix, vous vous en souvenez. Le prix, c'est le gouvernement qui l'a fixé après avis de la commission des participations et des transferts à 240 millions d'euros, chiffre de mémoire, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais je crois que c'est ce chiffre-là. C'était un peu plus du tiers du prix payé pour les dernières fréquences 3G, pour à peu près le tiers, pour exactement le tiers de fréquences. Donc, on peut pas estimer. Ça a été attaqué dans le Conseil d'État, qui a validé cette décision fixant le prix de la licence. Alors, est-ce que les conditions qui ont été faites pour ce quatrième opérateur, à ce moment-là, on ne savait pas qui ça serait, ont été particulièrement avantageuses? Si tel avait été le cas, on aurait dû avoir une quantité de candidats. Or, malgré tous les efforts, j'en suis le témoin, puisque là, pour le coup, alors j'étais arrivé à l'ARCEP à ce moment-là, j'ai reçu dans mon bureau de très nombreux, je ne citerai pas des noms, acteurs importants des télécommunications, au sens large du mot télécommunication, et qui s'informaient, qui se demandaient, etc. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on les a vraiment incités à être candidats, puisque c'est toujours mieux pour quelqu'un qui doit faire un choix de pouvoir choisir que d'avoir le choix entre une personne et personne d'autre. Et malgré ce caractère faramineusement favorable qu'auraient été les conditions fixées pour attribuer cette licence, il y a eu un candidat. Alors, je crois que quand même, quand on est raisonnable et qu'on essaie de faire fonctionner sa raison, qui est quand même un objectif que tout citoyen peut avoir dans un pays où les lumières ont été inventées, on se dit que s'il y a un candidat, malgré une très forte incitation à ce qu'il y en ait d'autres, c'est que les conditions ne devaient pas être si extraordinaires. Alors après, la question que vous posez, c'est de vérifier que les obligations qui ont été fixées dans les conditions que je viens de rappeler sont respectées, bien sûr, c'est notre rôle. Nous avons fait deux vérifications, une première et une seconde, puisqu'il y avait visiblement un souhait qu'il en soit ainsi des opérateurs du marché, qui ont confirmé que l'objectif de couverture était atteint. Le ministre de l'Industrie a souhaité qu'un troisième contrôle soit effectué via l'Agence nationale des fréquences, dont le rapport a été remis, je ne sais pas si c'est un hasard, un jour avant avant les élections qui ont lieu au mois de mai. L'Agence nationale des fréquences a surconfirmé l'analyse de l'ARCEP, puisque elle est arrivée à plus de 30% de couverture, là où nous arrivions à 28%. Et ce qui est très intéressant dans le rapport de l'ANFR, c'est que, qui est beaucoup plus compétente que quiconque pour faire ce travail, parce qu'elle avait vraiment des fréquenciers, des gens spécialisés des fréquences, l'ANFR décrit dans ce rapport un modèle de propagation des ondes et d'accès au réseau tout à fait intéressant, qui montre qu'un opérateur qui n'a pas de réseau au moment où il lance, qui a un petit réseau, quand il ouvre un nouveau service et qui demande un accord d'itinérance à un autre acteur, c'est exactement la situation entre Free et France Télécom, ne peut pas, selon l'ANFR, techniquement, il lui est impossible, avant d'avoir atteint un niveau de couverture considérable proche de son objectif final, c'est-à-dire proche de 90%, ne pourrait pas, selon l'ANFR, faire autre chose que voire acheminer les communications de ses abonnés par le réseau d'itinérance. Donc si on suit l'NFR, et ça c'est une question qui ne relève pas de l'ARCEP, si on suit l'NFR, il est impossible, il aurait été impossible, même si Free avait déployé, mettons, 50% de sites supplémentaires, il aurait fallu que Free, dès le départ, déploie 3 ou 4 fois, alors il déploie tout son réseau, en fait, quasiment, pour qu'il puisse avoir la communication de ses abonnés passant par son réseau. Donc si on suit l'NFR, alors ça veut dire que
pas d'accord de roaming.
Il y avait, ben voilà, ça veut dire que ça implique de faire un choix sur le principe même d'un accord de roaming.
Monsieur Silicani, merci. Et j'appelle maintenant Guillaume et les participants de la table ronde suivante. Merci à tous.